Des plans blancs en reconfinement, la France tente d'endiguer la vague estivale de Covid-19. La Guadeloupe se reconfine ce soir. La Corse va connaître de nouvelles restrictions. En pleine saison touristique, les autorités n'ont pas d'autre choix que de prendre les devants. La communauté internationale est toujours au chevet du Liban. En ce jour anniversaire de l'explosion au port de Beyrouth, elle promet une nouvelle aide de 370 millions d'euros. Mais il faudra plus que des chèques pour sortir le Liban de l'ornière, car au pays du cèdre, les racines du mal sont profondes. Les Libanais sont dans la rue ce soir pour dénoncer un régime corrompu. Reportage à suivre. Dans ce journal, vous entendrez l'une des chercheuses à l'origine du vaccin AstraZeneca. Elle a désormais une poupée Barbie à son effigie. Et puis nous irons à Tokyo pour entendre la joie des basketteuses françaises qualifiées pour les demi-finales et la détermination de Kevin Mayer à la mi-temps du concours de décathlon. Le téléphone sonne juste après ce journal. Bonsoir Marion Lourd.
Bonsoir.
Et ce soir, vous avez choisi de nous envoyer du courrier.
Oui, je suis une des rares, hein, parce qu'il y a eu 39% de courriers en moins en 10 ans. Et pour compenser un prix du timbre qui n'arrête pas de grimper, La Poste, c'est une entreprise. Elle a aussi des missions de service public. Peut-elle encore les remplir aujourd'hui et à quelles conditions? On en parle ce soir. Vos questions, 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter.
À tout à l'heure dans un quart d'heure.
France Inter.
C'est une décision historique. L'État français est condamné à payer 10 millions d'euros pour ne pas avoir lutté assez efficacement contre la pollution de l'air. La plus haute juridiction administrative du pays a rendu son jugement aujourd'hui, saisi il y a plusieurs années par l'association Les Amis de la Terre. En 2017, le Conseil d'État avait enjoint le gouvernement à réduire ses niveaux de particules fines et de dioxyde d'azote. Mais aujourd'hui, les valeurs sont toujours trop élevées et la pollution de l'air fait plus de 40 000 morts par an. Bonsoir Hélène Chevalier.
Bonsoir.
Qu'est-ce qui a motivé cette décision du Conseil d'État ?
Eh bien, le Conseil d'État estimait que la France n'avait pas mis en place de mesures suffisantes pour améliorer la qualité de l'air dans certaines zones, comme il le lui avait pourtant ordonné il y a 4 ans. Sur les 11 zones qui ne respectaient pas les normes sanitaires en termes de concentration de dioxyde d'azote et de particules fines, 2, à savoir Paris et Lyon, étaient toujours au-dessus des seuils, et 3 autres, Marseille, Toulouse et Grenoble, légèrement en dessous, alors même, fait remarquer le Conseil d'État, que la crise sanitaire a fortement diminué plusieurs sources de pollution et notamment la circulation routière. Si la plus haute juridiction administrative reconnaît une réelle amélioration dans certaines régions, les mesures restent insuffisantes selon elle. 10 millions d'euros, l'État n'avait jamais été condamné à payer une telle somme, justifiée par la gravité des conséquences en termes de santé publique et l'urgence qui en découle.
Hélène, quelles seront les suites de cette décision ?
Eh bien, début janvier 2022, le Conseil d'État se réunira à nouveau, regardera les dernières données de qualité de l'air pour le second semestre de cette année. Et si elles ne sont pas améliorées, eh bien, l'État pourra à nouveau être condamné à verser 10 millions d'euros ou une somme même supérieure. Ce qui est intéressant dans cette décision, c'est que pour éviter que cette amende ne revienne dans les caisses de l'État, ce qui n'aurait pas beaucoup d'impact, la plus haute juridiction administrative a décidé qu'elle serait versée à des organismes ou des associations qui œuvrent pour la qualité de l'air. Ainsi, l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, va toucher 3,3 millions d'euros, 2 millions pour l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire, ou encore 350 000 euros à l'association Air Paris.
Hélène Chevalier, chef du service santé et environnement de France Inter. Vous retrouvez les détails de cette condamnation inédite de l'État français sur franceinter.fr. À Beyrouth, c'est à la fois le recueillement et la colère qui animent les habitants. Un an après l'explosion d'un stock de nitrate d'ammonium sur le port, une minute de silence a été respectée ce soir par la population libanaise unie dans le deuil à l'heure exacte de la catastrophe. Pour saluer la mémoire des 214 personnes mortes ce 4 août 2020, une cérémonie interreligieuse était organisée sur les lieux du drame. Le cortège doit ensuite se mettre en route vers le Parlement en haussant le ton. Les manifestants dénoncent l'incurie de la classe dirigeante incapable de reconstruire la ville. À Beyrouth, le reportage de Nicolas Falaise.
Toute l'après-midi, par petits groupes, ils ont marché vers le port de Beyrouth où se dresse toujours la carcasse des silos à grains éventrés. Dans la foule, beaucoup de drapeaux libanais et des banderoles demandant justice pour les victimes du 4 août. Wahiba est venue avec sa fille.
Ça fait un an, on est toujours sous le choc et on n'est jamais remis de cette souffrance, de cette douleur, de ce massacre contre tout un peuple. Et je blâme tous les politiciens libanais. C'est un des plus beaux pays du monde et malheureusement, ils l'ont lâché et ils ont contribué au meurtre de ce peuple.
Peu après 18h, la foule se tait. Minute de silence à l'heure exacte de l'explosion, avant une salve d'applaudissements. Rana montre le tatouage qui orne son bras depuis un peu moins d'un an, des flammes et un cadran qui indique cette heure où tout a basculé. Rana porte aussi un casque de chantier rouge à la ceinture.
Après qu'on rende hommage aux victimes et tout ça, il va y avoir un peu de violence aujourd'hui. Il y a trop de rage, spécialement avec les jeunes, donc on se prépare.
Ce soir, beaucoup ont prévu d'aller crier leur colère devant le Parlement et sous les fenêtres de plusieurs dirigeants libanais. Beyrouth, Nicolas Falaise, RFI pour France Inter.
Les dirigeants libanais ont également été fustigés par Emmanuel Macron lors de la conférence internationale qui s'est tenue ce midi à l'occasion de ce premier anniversaire. Le président français qui co-dirigeait la réunion avec les Nations Unies a dénoncé les faillites individuelles et collectives dans un pays qui n'a toujours pas de gouvernement.
Les dirigeants libanais semblent faire le pari du pourrissement. Je le regrette. Je pense que c'est une faute historique et morale. Nous avons créé avec l'ensemble de nos partenaires européens un régime de sanctions spécifique sur le Liban. Les dirigeants libanais ne doivent donc pas dans ce contexte douter une seule seconde de notre détermination. Cela vaut pour le gouvernement et sa formation, la mise en œuvre des réformes, mais également l'enquête sur le port qui est attendue par toute la population libanaise. Je crois que les dirigeants libanais, je suis même sûr, sont redevables de la vérité et de la transparence à l'égard de leur population. Il en est de même enfin pour la tenue des élections au printemps prochain.
À l'issue de cette conférence, la communauté internationale promet une enveloppe de 370 millions de dollars débloquée au cours des 12 prochains mois. La France met la main au porte-monnaie à hauteur de 100 millions, 100 millions également de la part des États-Unis.
France Inter. Cécile Bideau.
Après la Martinique, sa voisine des Antilles françaises, la Guadeloupe se reconfine à son tour pour tenter d'endiguer la quatrième vague de Covid-19. Un confinement entre en vigueur la nuit prochaine pour au moins 3 semaines. Les déplacements seront limités à un rayon de 10 km. Les habitants et les touristes seront également soumis à un couvre-feu de 20h à 5h du matin. Il sera interdit de se poser sur les plages. Les restaurants ne peuvent ouvrir que le midi. Dernières heures avant confinement en Guadeloupe, c'est un reportage de l'envoyé spécial de France Inter, Boris Loumagne.
Sur la plage, ce reconfinement est vécu de deux façons. Les touristes gardent le sourire, comme Béatrice, même si à cause du périmètre de 10 km, elle ne pourra pas faire les balades prévues.
J'ai voulu aller à Terre de Haut, c'est même pas la peine, donc tout est fermé. Donc plus d'excursions, plus de visites, donc voilà, on va essayer de sauver les vacances. On se dit ça aurait pu être pire.
En revanche, du côté des locaux,
je trouve ça un petit peu ridicule.
On a du mal à accepter ces restrictions. Restaurant ouvert le midi, mais pique-nique interdit sur la plage. Difficile à comprendre pour Yann, un entrepreneur guadeloupéen.
C'est des mesures qui sont contradictoires à chaque fois. Si c'est pour quelque chose qui nous paraît à nos yeux inutile avec toutes les contradictions qu'il y a depuis le début, bah forcément les gens sont là, c'est ne font plus l'effort de le faire, quoi.
Et pourtant, ces nouvelles mesures doivent faire réfléchir les Guadeloupéens, selon Prosper, qui attend les touristes devant son stand de pédalo.
C'était le 9 juin, il me semble, le 9 juin que le préfet l'avait tout ouvert. Je pense que c'est un rappel. C'est-à-dire que là, on va être confiné. Mais il faut se rappeler que notre durée de liberté, entre les guillemets, si on respecte pas les choses barrières, c'est quoi? C'est un mois et demi.
Et effectivement, il aura fallu moins d'un mois pour que cette nouvelle vague de contamination déferle sur la Guadeloupe.
En Corse, le confinement n'est pas encore à l'ordre du jour, mais des mesures de restriction entrent en vigueur pour faire face à la montée en flèche du nombre de cas liés au variant Delta. En Haute-Corse, où le taux d'incidence est 4 fois supérieur à la moyenne nationale, les zones où le port du masque est obligatoire sont étendues, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits et les restaurants et les bars sont sommés de fermer leurs portes à 1h du matin ou plus tard. Cette dernière mesure est mise en place également en Corse du Sud. Le plan blanc qui permet de renforcer les effectifs dans les hôpitaux continuent de s'étendre, activés aujourd'hui dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie. On a appris aujourd'hui que le rappeur Akhenaton a été hospitalisé le week-end dernier à l'hôpital de la Timone à Marseille. Le chanteur du groupe IAM a attrapé le Covid-19. Il souffre d'une gêne respiratoire selon son entourage. Dans une vidéo le mois dernier, Akhenaton s'est prononcé contre la vaccination obligatoire et le pass sanitaire. La pression médiatique et politique a eu raison de la fête d'anniversaire de Barack Obama. L'ancien président américain, qui a 60 ans aujourd'hui, avait prévu une immense garden party dans le Massachusetts le week-end prochain, avec des centaines d'invités paillettes, de Steven Spielberg à Oprah Winfrey, en passant par George Clooney. Mais en pleine crise sanitaire avec l'avancée du variant Delta, l'annonce des réjouissances a provoqué une vague de réactions et contraint la famille Obama à fêter ça en petit comité. invité. Depuis New York, les précisions de Loïc Loury.
475 invités de 100 personnes pour les servir, le tout sur un domaine de 12 hectares, propriété des Obama sur l'île de Martha's Vineyard. Voilà ce que prévoyait l'ex-président pour ses 60 ans. Ce sera finalement famille et proches seulement. Et tant pis pour des centaines de célébrités, ténors démocrates et grands donateurs du parti. Officiellement, c'est la propagation du variant Delta aux États-Unis qui justifie cette marche arrière. Difficile toutefois de ne pas y voir surtout une tentative pour éteindre la polémique née ces derniers jours. Si c'était la fête d'anniversaire du président Trump, dit ainsi un élu républicain, les démocrates dénonceraient un dangereux événement super propagateur. Dans un premier temps, le couple Obama avait bien tenté de maintenir l'événement en assurant faire respecter les directives de santé publique. Il renonce finalement face à la polémique et afin de ne pas éclabousser Joe Biden, le président qui avait peut-être senti le coup ne prévoyait pas d'y participer. New York, le Loïc Loury, France Inter.
Alors que plusieurs pays, Israël, l'Allemagne, la Suède, commencent ou sont sur le point de le faire à administrer des doses de rappel des vaccins contre le Covid, l'Organisation mondiale de la santé demande de mettre sur pause. L'OMS appelle à un moratoire sur cette troisième dose jusqu'à fin septembre, ce qui permettrait de mettre des vaccins à disposition des pays pauvres qui sont très en retard déjà sur la première dose. Parmi les vaccins contre le coronavirus, il y a celui d'AstraZeneca. La recherche pour le mettre au point s'est déroulé à Oxford, en Grande-Bretagne. Et l'une des scientifiques qui en est à l'origine, Sarah Gilbert, vient de recevoir un honneur auquel elle ne s'attendait pas. Le fabricant de jouets Mattel a créé une poupée Barbie à son effigie. Elle a les cheveux longs et blonds, elle porte des lunettes, mais n'a pas de seringue à la main. Sarah Gilbert a été très étonnée lorsqu'elle a rencontré son alter ego Barbie.
C'est un concept très étrange que d'avoir une poupée Barbie créée à mon image. J'espère qu'elle contribuera à faire en sorte qu'il soit plus normal pour les filles de penser à une carrière scientifique. Même si, pour être honnête, lorsque j'ai des jeunes filles, je n'ai jamais cru ou pensé que je ne ferais pas une telle carrière. J'espère que ma poupée Barbie, ainsi que d'autres poupées représentant des femmes qui travaillent dans les domaines de la science et de la médecine, leur rappelleront que de nombreuses carrières leur sont ouvertes, de sorte que lorsqu'elles jouent, elles pensent aussi à ce qu'elle pourrait faire plus tard. Je pense que je vais probablement la garder dans mon bureau, au travail, avec d'autres trophées de 2020 et 2021.
Sarah Gilbert, l'une des créatrices du vaccin AstraZeneca, a aussi été anoblie par la reine d'Angleterre. Interview réalisée par l'agence Reuters. Aux Jeux Olympiques de Tokyo, les basketteuses françaises ont prouvé qu'elles étaient de grandes joueuses, et pas seulement par la taille. Elles sont qualifiées pour les demi-finales après une victoire sur les vice-championnes olympiques en titre, les Espagnoles. Le match a été haletant jusqu'à la dernière seconde où la France s'impose 67-64. La sélectionneuse des Bleus, Valérie Garnier, qui a fait des bons sur le banc de touche tout au long de la rencontre, savoure la victoire.
C'est du plaisir pur et maintenant c'est tout de suite focus sur le match suivant. Tout n'a pas été parfait mais dans l'absolu, je leur avais parlé un peu de technique mais je leur avais dit que la différence elle serait dans l'engagement, dans la volonté, dans la dureté. Voilà, dans la capacité à gérer justement les temps faibles qu'il y a eu à un moment donné. Voilà, il y a tout le monde qui veut aller en demi-finale. Donc bravo à mon équipe pour ça.
Et vendredi, l'équipe de France affrontera le Japon. La bonne santé des sports collectifs français continue de se vérifier sur les parquets. Les handballeuses ont également gagné leur ticket pour les demi-finales en éliminant les joueuses des Pays-Bas, championnes du monde. Dans le dernier carré, elles seront opposées à la Suède vendredi. L'athlétisme français, en revanche, attend toujours son heure. Les espoirs reposaient sur les larges épaules du décathlonien Kevin Mayer, mais à mi-parcours du concours, il n'est que cinquième. Il lui reste 5 épreuves à disputer demain, mais ses douleurs au dos sont très handicapantes. Pour aller décrocher une médaille, Kevin Mayer devra puiser des forces au plus profond de son mental. Envoyé spécial de France Inter à Tokyo, Jérôme Val.
Un cri de rage, le poing qui tape son torse, Kevin Mayer a retrouvé son tempérament de battant sur la quatrième épreuve, le saut en hauteur où il a passé avec succès une barre à 2,08 m. Suffisant pour le relancer, mais pas assez pour vaincre la douleur au dos, toujours présente et qui lui a gâché cette première journée du concours.
J'ai pris quelque chose que je prends très rarement, c'est-à-dire que ça fait 5 ans que je n'avais pas pris des anti-inflammatoires. Quand on n'en prend pas beaucoup, ça fait un grand effet. C'est vrai que je n'abats pas souvent cette carte parce que je veux la garder quand ça compte. C'est pas très bon pour la santé, je pense que je vais douiller après mon déca. Mais bon, douiller au jeu, c'est normal. Donc à partir du moment où il y avait moins de douleur, je ne dis pas qu'il n'y en avait plus. À la hauteur, c'était un plaisir énorme.
La nuit tombée. Pour l'ultime épreuve de la journée, le 400 mètres, il n'y a pas eu de miracle. Le Montpellierin a réalisé seulement le 18e chrono. Et le retard s'accumule pour aller chercher un podium. Déjà plus de 300 points derrière le leader, le Canadien Damian Warner. Presque rédhibitoire pour le titre. Et quand on demande à Kevin Mayer comment il voit la suite, voici sa réponse.
L'état d'esprit, là, il est d'aller faire une bonne nuit. Très grosse nuit. Enfin, très grosse nuit. Je vais rentrer à minuit. Je vais me lever à 5h, donc... Ça est dur, c'est comme ça.
Les larmes du matin ont séché, mais la frustration, elle, n'est pas près de se dissiper. Tokyo, Jérôme Val, France Inter.
Et on suivra bien sûr la fin du concours demain dans la matinale de France Inter. Notez également le nom du successeur d'Usain Bolt sur 200 mètres. Le Canadien André De Grasse devient champion olympique. La seule médaille française du jour est en bronze et en voile pour le duo Camille Lecointre et Aloïse Retornaz. Le compteur est à 25 ce soir. La France est 8e au classement des nations. C'est la suite, mais pas encore la fin du feuilleton sur les droits télé de la Ligue 1 de football. Le tribunal judiciaire de Paris a ordonné aujourd'hui à la chaîne beIN Sport d'assurer la diffusion de 2 matchs par journée, comme le prévoit son contrat avec la Ligue de foot professionnelle. Si elle ne le fait pas, ce sera 1 million d'euros par match non diffusé. beIN, de son côté, se retourne contre Canal+, son ancien partenaire chargé de régler la note. La justice doit trancher demain. Le litige sera donc terminé avant le début du championnat ce week-end.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Sébastien Léas, on va avoir droit à une accalmie temporaire, dites-vous.
Oui, temporaire, oui. Sur le pourtour méditerranéen, le sud-aquitain et le midi toulousain, la journée de demain sera largement ensoleillée. En Corse, il faudra attendre l'après-midi pour retrouver du soleil. Sur l'ouest, le vent va aussi se renforcer, notamment sur les hauteurs et les caps exposés. Après les averses de ce soir et de cette nuit, qui vont devenir de moins en moins nombreuses, la journée de demain verra nuages et éclaircies se partager le ciel. Sur le Grand Est et le Jura, il faudra encore composer avec des averses passagères. Ces averses pourront prendre un caractère orageux d'ailleurs demain après-midi. Et puis cette petite parenthèse calme prendra fin sur le nord-ouest demain, puisqu'une perturbation pluvieuse va aborder la Bretagne en matinée. Les pluies balayeront tout le quart nord-ouest l'après-midi pour atteindre les Hauts-de-France, le bassin parisien et le centre-val de Loire en fin de journée. Et puis l'ambiance était particulièrement fraîche aujourd'hui à Marseille. Mercure a culminé à seulement 22 degrés. La dernière fois qu'il a fait aussi frais début août, c'était en 1998. Pour demain, les températures seront en hausse. Elles resteront plus estivales autour de la Méditerranée avec 25 à 32 degrés sur le reste du pays. Prévoyez 19 à 26 degrés.
Vive l'été. Merci Sébastien Léas de Météo France.